Soyez bienvenus, heureux de vous accueillir pour ce dernier numéro de l'année 2014 d'International. Le décor, vous le voyez ou vous l'entendez, n'est pas celui du studio habituel de Paris. Nous sommes en effet dans l'un des pays, dans l'une des villes qui, aujourd'hui, à travers le monde, suscite l'inquiétude. Nous sommes en effet à Conakry, la capitale de la Guinée, frappée, vous le savez, depuis des mois par ce virus, cette fièvre hémorragique, Ebola. Quelques centaines de victimes, un millier, dit-on, et sans doute autant de personnes qui aujourd'hui luttent contre la maladie. La Guinée qui a vu sa frontière temporairement fermée, qui tente de mobiliser à travers le monde pour éradiquer ce virus. Nous avons choisi de venir nous installer ici, de planter nos caméras et les micros pour témoigner des efforts de ce pays, montrer ce qui s'y passe au niveau économique, culturel, politique aussi, de façon à tourner le plus rapidement possible la page d'Ebola. Je vais rejoindre dans un instant avec Sophie Malibaud, je vais rejoindre le président de la République, Alpha Condé, qui nous attend tout près d'ici au palais présidentiel. Mais tout d'abord, ces quelques chiffres et ces images terribles de la réalité d'Ebola dans les trois pays les plus touchés d'Afrique de l'Ouest.
Près de 7000 morts en un an. Depuis sa découverte dans les années 70, jamais Ebola n'avait fait autant de victimes. Jamais le virus n'avait frappé en dehors de l'Afrique centrale, plusieurs pays à la fois. Ce week-end, Ban Ki-moon visite les pays les plus touchés. Le Liberia, 3200 morts, la Sierra Leone, 1800 morts, et la Guinée, d'où est partie l'épidémie fin décembre 2013, près de 1500 morts. Le secrétaire général de l'ONU est d'abord venu saluer le courage de ses équipes et le sacrifice des personnels de santé locaux. Il se félicite aussi des progrès accomplis.
Le nombre de cas est encore élevé, mais notre approche doit s'adapter aux évolutions de l'épidémie. Les malades aujourd'hui sont plus dispersés géographiquement.
Depuis quelques semaines, en effet, le nombre de cas augmente moins vite. Lorsqu'un malade est repéré, il est pris en charge rapidement, la zone de contamination est isolée. Doit-on parler d'amélioration pour autant ? Les experts sont partagés. Certes, il y a moins de malades, mais ils apparaissent dans de nouvelles zones.
Il y a deux zones particulièrement gênantes. Il y a l'ouest de la Sierra Leone. Nous sommes également préoccupés par la partie nord de l'intérieur de la Guinée forestière.
Des régions très isolées qui n'auraient pas dû être atteintes, cela signifie qu'il y a une baisse de vigilance, que les gens se sentent moins menacés par la contamination, que le travail d'information et de sensibilisation n'a pas touché tout le monde. Les autorités sanitaires sont formelles. Tant que 100% des malades n'auront pas été identifiés, le risque d'une rechute, d'un nouveau pic, existe. Si Ebola a fait autant de victimes, c'est que les pays touchés n'avaient aucun moyen de faire face à une telle épidémie.
Ebola a mis à nu nos faiblesses, il faut le reconnaître. D'abord, l'épidémie a trouvé un système de santé qui est très faible. Et donc, ça lui a permis d'avoir de la force. Et également, de notre côté, ça nous a permis de faire l'examen approfondi de notre système de santé.
Dans ces pays déjà sinistrés par la crise et les guerres civiles, Ebola a eu un impact économique catastrophique. La Banque africaine de développement estime que l'épidémie pourrait coûter entre 1 et 2 points de PIB au Liberia, à la Sierra Leone et à la Guinée. Et cette semaine, l'ONU mettait en garde. Ebola a également perturbé les récoltes et les réseaux d'approvisionnement. Plus d'un million de personnes seraient menacées par la faim.
Voilà, après ce rappel de la situation, toujours à l'extérieur, toujours dans cette ville de Conakry, capitale de la Guinée, eh bien nous sommes reçus par le président de la République, Monsieur Alpha Condé. Merci de nous recevoir avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale. Nous allons vous poser des questions sur ce que vit votre pays actuellement avec cette épidémie. Nous parlons de la gouvernance, de la situation plus largement en Afrique. Mais tout d'abord, quand on voit ces chiffres, est-ce que dans votre pays aussi, comme en Sierra Leone, comme au Liberia, on n'a pas tardé à prendre la mesure de la menace qui était faite? Est-ce qu'on n'a pas, au fond, été dans une forme de banalisation, voire de déni au début de cette maladie?
Non, je crois qu'au début, on n'a pas tout à fait pris conscience. D'abord, nous, en Guinée, du fait de la faiblesse de nos moyens hospitaliers, on ne s'est pas rendu compte très vite. Parce que comme on n'a jamais connu d'Ebola, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait d'Ebola en Guinée. Si on avait eu des systèmes de laboratoire d'analyse comme l'Institut Pasteur, on aurait pu très vite savoir que c'était l'Ebola. donc isoler la sous-préfecture comme le président Sassou l'avait fait au Congo et porter secours aux gens alimentaires et tout, et le Ebola c'est sa réalité. Ensuite je pense que la communauté nationale aussi n'a pas pris conscience très rapidement de la gravité.
On ne vous a pas aidé assez tôt, c'est ce que vous dites?
Bon, c'est-à-dire, aujourd'hui, je remercie la communauté internationale qui s'est beaucoup mobilisée depuis un moment, au mois de septembre, où il y a eu la résolution du Conseil de sécurité, le sommet des Nations Unies sur l'Ebola, la déclaration forte du président Obama, du président Ban Ki-moon et du président de la Banque mondiale, du président Hollande. Mais il y a eu quand même un retard dans la mobilisation de la communauté internationale. Heureusement, aujourd'hui, la communauté internationale est mobilisée. Et nous pensons que chacun a pris la mesure de la gravité, puisque les Américains, comme tout le monde dit aujourd'hui, que c'est une menace contre la paix et la sécurité mondiale. Mais si on avait pris conscience beaucoup plus tôt, je pense qu'aujourd'hui on aurait stoppé la maladie.
Efficace, ouais. Plus efficace. Sophie
Malibu. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? Est-ce que ce sont des fonds? Est-ce que ce sont des financements pour lutter contre cette maladie? Est-ce que ce sont c'est du personnel? Quel est votre besoin le plus urgent?
Bon, évidemment, les besoins financiers sont importants parce que nous avons besoin de stopper la chaîne de contamination, c'est-à-dire pouvoir surveiller les frontières pour savoir si quelqu'un est positif, pouvoir le prendre en charge tout de suite, ce qui lui donne plus de chances de guérir. S'il est négatif, on va faire un contrôle. Mais aussi le personnel, mais surtout aussi la coordination. On a un grand problème parce que chaque organisation a ses habitudes, mais s'occuper des réfugiés ou bien de la paix, c'est une chose. L'Ebola, c'est tout à fait autre chose. Donc, il y a une nécessité de s'adapter à cela. Donc, on a des problèmes financiers, mais aussi on a des problèmes de coordination et aussi des problèmes de communication. Il y a aussi la peur de population, il y a aussi l'incroyance. Il y en a qui croient que l'Ebola, ce n'est pas une réalité, d'autres qui disent que ce n'est pas vrai, etc.
C'est pour cette raison, Monsieur le Président, qu'en ce moment même encore, il y a des heurts, il y a des échauffourées quand il y a un centre de traitement qui essaye de s'installer, comme c'est le cas dans le sud de la Guinée en ce moment, à Kissidougou, comme ça a été le cas le mois dernier.
Vous savez, il n'y avait pas du tout de cas à Kissidougou. C'est ça un peu l'indiscipline. Il y a eu un décès au Libéria. Le monsieur est parti, il est venu avec les affaires du défunt et il a distribué. Alors, vous savez que l'Ebola se transmet aussi par la sueur. Si les habits ne sont pas bien nettoyés, ça transmet. Bon, évidemment, il y a aussi. C'est pas tellement le fait de la police, c'est certains éléments qui poussent pour des intérêts égoïstes. Bon, mais c'est notre faute aussi parce que nous devons renforcer la sensibilisation partout, systématiquement, en utilisant tous les moyens, les chefs religieux, les guérisseurs traditionnels, etc., dont le rôle peut être très important au niveau, mais aussi la société civile et tout le monde. Je pense que c'est important. Et aussi, vous savez, quand les paysans qui ne sont pas habitués voient les médecins habillés comme des cosmonautes, etc., ça fait un peu peur.
Justement, Monsieur le Président, Alpha Condé, est-ce que vous vous êtes senti à un moment, votre pays s'est senti, j'allais dire, pestiféré, la frontière fermée avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, on ne peut toujours pas voyager quand on est guinéen, par exemple, au Canada ou en Nouvelle-Zélande, il y a cette peur. Le plus dur, c'est de lutter contre la peur ou contre la maladie?
Non, je pense que le plus difficile, c'est de lutter contre la peur, parce que la peur irrationnelle, parce que vous savez, l'erreur aussi au départ, c'est n'avoir pas dit aux gens que l'Ebola, c'est une épidémie très grave, mais qu'on ne meurt pas nécessairement d'Ebola.
Si on peut guérir.
Voilà. Donc le fait de n'avoir pas dit ça au début, ça fait que quelqu'un qui est malade, pourquoi voulez-vous qu'il aille à l'hôpital? Donc ça a été une erreur de communication, parce que si vous êtes pris à temps, vous avez plus de 80% de chances de guérir. Ça, c'est la première erreur. La deuxième, évidemment, en fermant les frontières, en créant, ça a un peu créé la panique. Et aujourd'hui, il y a une vision irrationnelle, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Donc il y a une nécessité de lutter contre cette panique irrationnelle et de ramener les gens à la raison. Mais il faut que les gens comprennent bien qu'est-ce que l'Ebola, comment on l'attrape. Et c'est ça qui est le plus important. Quand on est face à l'inconnu, on a peur. Mais mieux les gens comprendront ce qu'est l'Ebola, mieux la communication sera organisée. Il faut dire aussi qu'on était au mois d'août, vous n'avez pas beaucoup de sujets, donc tout le monde était focalisé sur Ebola, CNN, France 24, etc. Bon, mais je pense que progressivement, les gens commencent à comprendre la preuve. Tous les vols ont repris, les frontières sont ouvertes, les vols ont repris, etc.
Est-ce que vous pensez que le message est passé, par exemple, autour de certaines coutumes, autour des rites funéraires, autour des inhumations, puisque ce que l'on sait, c'est que par les fluides corporels, c'est un moment dangereux pour la contamination. Est-ce que un effort spécifique est fait pour faire comprendre aux populations qu'il faut peut-être changer certaines habitudes, du moins pendant l'épidémie?
Bon, en effet, vous savez, les habitudes, c'est très, très difficile de faire partie des habitudes. Mmh. C'est des habitudes séculaires. Et il faut faire comprendre aux gens que lorsque quelqu'un meurt, même si ce n'est pas de l'Ebola, vous pouvez attendre que la Croix-Rouge vienne sécuriser. Bon, c'est une grande bataille à mener parce que c'est, ça va un peu contre. Vous avez certaines régions, par exemple, on embrasse le front du mort, etc. Or, il faut convaincre les gens qu'il ne faut pas toucher le malade. Parce que si quelqu'un a été contaminé, il ne faut pas le toucher. Et si vous avez par hasard été en contact, il faut accepter que vous avez suivi pendant 21 jours. Mais ce n'est pas très facile parce que ça remet en cause beaucoup de nos habitudes. Vous savez, en Afrique, on est très chaleureux, on s'embrasse, on s'enlace, etc. Bon, on a des habitudes, on est très très chaleureux. Et l'Ebola va contre tout ça.
Pourquoi, par exemple, les écoles n'ont pas ouvert? Pour l'instant, les écoles sont fermées. Est-ce que ce ne serait pas... L'école française est ouverte, mais les écoles pour les petits Guinéens, finalement, du coup, restent dans les quartiers. Est-ce qu'ils ne seraient pas mieux pris en charge dans des structures scolaires où on peut vérifier les températures, où, en fait, ils courraient moins de risques et où il pourrait y avoir de la sensibilisation?
Vous savez, on n'a pas fermé les écoles. Toutes les écoles ont été normalement... Aucune école n'a été fermée. Tout le monde a passé les examens normalement. Mais... Et étant donné que l'Ebola avait commencé à presque à finir, mais qu'il y a eu un peu de laisser aller du corps médical et tout, que la maladie est repartie, c'est par précaution que nous avons voulu mettre tous les systèmes sécuritaires, c'est-à-dire les kits, etc., les thermoplastes, pour avant d'ouvrir l'école. Parce que c'est vrai que l'école ne contamine pas nécessairement, mais si jamais il y a la contamination à l'école, c'est extrêmement grave. Donc on a reporté un peu, on va ouvrir les écoles début janvier, on voulait les faire début décembre, mais vous savez, les médecins ne sont jamais d'accord entre eux. Et moi, je ne suis pas médecin, alors si d'ici dit qu'on peut ouvrir les écoles, ça n'a pas d'inconvénient d'avoir les kits, d'autres disent autre chose, donc je suis obligé d'être très prudent, parce que si demain on ouvre les écoles, c'est la catastrophe, bon. Mais sinon, nous n'avons pas fermé les écoles jusqu'aux vacances, tout le monde a passé les examens. Mais c'est une mesure de précaution. Mais nous allons ouvrir les écoles, on met des kits partout, lavement des mains, etc., et le chlore, etc., pour qu'on ouvre les écoles.
Le secrétaire général de l'ONU était hier en visite ici, après la Sierra Leone et le Libéria. Il y a un espoir, un mot qui circule déjà, c'est une guerre courte contre Ebola. Une guerre courte, une guerre, et qui serait courte. Cette guerre, vous êtes en mesure de la gagner rapidement, vous pensez?
Nous sommes en mesure de la gagner rapidement si tout le monde tourne dans le même sens. Si vous êtes en guerre, vous devez tirer dans le même sens, c'est-à-dire que l'ennemi est à gauche, vous tirez tout à gauche. Le grand problème aujourd'hui, c'est la coordination entre les différentes organisations qui interviennent sur le terrain.
Elles ne sont pas assez coordonnées, ces organisations?
Non, on a coordonné, mais il y a une certaine discipline. Par exemple, si je prends des primes, certains voulaient payer 100 000 dollars, 200 000, et ça crée évidemment des frustrations. On a eu beaucoup de mal à finalement unifier pour que tout le monde fasse la même chose. C'est-à-dire que les organisations ont une habitude traditionnelle de travailler. Et elles ne se rendent pas compte qu'avec l'Ebola, on doit s'adapter. Mais je pense que là aussi, on a fait beaucoup de progrès au niveau de la coordination.
Monsieur le Président, vous savez ce qu'on entend dans la rue, tout près d'ici? On parle d'un business d'Ebola, un mot terrible, pour dire qu'il y a des gens aussi qui viennent ici et qui organisent économiquement une situation.
Bon, vous savez, moi, mon problème, c'est de finir le plus tôt possible l'Ebola parce que ça pèse beaucoup sur notre économie, ça pèse sur notre vie économique, sociale, etc., notre vie politique, et ça a tendance à nous isoler. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde nous aide et que nous-mêmes, nous
vous savez combien ça a déjà coûté, vous savez combien ça a déjà coûté à votre pays? On parle de 1 ou 2 points de produit intérieur brut.
Oui, nous sommes en discussion avec le Fonds monétaire parce qu'on n'est pas tous d'accord. On devait avoir au moins 4 à 5% de taux de croissance. Maintenant, on parle de 1, 0,5, etc. Donc, c'est que ça a beaucoup pesé sur nous. Et si les choses ne se rangent pas très vite, la Banque mondiale prévoit 500 millions de dollars, ce qui est énorme de pertes. Donc, les conséquences financières sont vraiment énormes.
Monsieur le Président, est-ce que vous craignez la faim dans votre pays? Il y a des évaluations qui sont faites et qui disent qu'à l'horizon du printemps, du fait de la difficulté de récolter, de la difficulté de communication dans le pays due à Ebola, à l'horizon du printemps, il pourrait y avoir 500 000 personnes, souffrant de la faim. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'évaluation?
Vous savez, d'abord, l'agriculture. Si vous allez à l'intérieur, vous verrez que l'agriculture a continué. Et le riz, le prix du riz n'a pas monté, etc. Je pense qu'il y avait souvent aussi une vision catastrophique qui ne répond pas à la réalité aujourd'hui. Moi, je pense que si nous organisons très bien la sensibilisation, et que nous suivons à 100% les cas, et que nous arrivons à aider les cas à se maintenir chez eux pendant 21 jours, nous allons arriver rapidement à la fin de l'Ebola. Je ne crois pas du tout. Vous savez, bon, il y en a qui ont intérêt à aggraver les choses pour avoir le plus d'aide, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on peut appeler un peu le business.
Ce sont des estimations de l'ONU qui estiment qu'il pourrait y avoir sur toute la région 1 million de personnes touchées par la faim du fait de la déstabilisation provoquée par Ebola.
Bon, vous savez, il y a un moment, on nous avait dit que ça allait être multiplié par 10, et c'est le contraire qu'on a vu. On disait qu'en octobre, ça allait exploser, ça n'a pas explosé. Au moment où les pays qui ont connu la guerre et qui n'avaient pas beaucoup d'infrastructures, on commence à avoir des infrastructures. Bon, moi, je pense que c'est une guerre, et quand on s'engage beaucoup pour gagner une guerre, on la gagne. Donc, je ne crois pas à ces prévisions pessimistes sur la famine, etc. Et je ne crois pas que les organisations sérieuses, que ce soit la Banque mondiale ou les Nations Unies, aient une telle vision.
Parce que quand il y avait quelques dizaines de morts, vous étiez aussi en train de parler d'exagération. Et maintenant, il y a plus d'un millier de morts. Est-ce que vous n'êtes pas en train de minimiser un petit peu ce qui se passe à l'échelle du pays?
Mais on me reproche de faire du micro-management et vous dites que je minimise. C'est tellement important pour moi qu'on me reproche même d'aller dans les détails. Parce que je pense qu'il faut tout faire pour se donner le même. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir l'Ebola. On le sait aujourd'hui. On sait qu'est-ce qu'il faut faire. L'essentiel, c'est de le faire. Et si on le fait, on peut stopper. Et le président de la Banque mondiale a eu une conférence qu'on lui a quelques jours, où on s'est fixé comme cap zéro Ebola.
Et à quel horizon?
Le plus tôt possible. On ne va pas dire tellement, le plus tôt possible. Et je pense qu'on est en train de faire un programme qui va nous permettre d'avoir zéro Ebola. Et c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui la deuxième phase. Quand nous avons rencontré tout à l'heure le secrétaire général des Nations Unies et la directrice de l'OMS, on dit maintenant on passe à la deuxième phase pour arriver à l'Ebola à zéro.
Vous fixez quand même un horizon, vous dites bien sûr le plus tôt possible, mais c'est une affaire de semaines, de mois, parce que pour votre pays et pour vos voisins de Sierra Leone ou de Liberia, c'est une situation terrible, tragique et humiliante aussi d'être un peu à l'écart, de faire peur.
Bon, j'espère que d'ici le printemps, on en aura fini, j'espère.
C'est l'horizon que vous vous fixez.
Enfin, j'espère, oui.
Qu'est-ce que ça va changer également, cette crise, par rapport à la gouvernance dans ce pays, au dialogue à l'intérieur du pays? Qu'est-ce que vous allez modifier? Vous avez, par exemple, annoncé qu'il y aurait des élections l'année prochaine, élections présidentielles.
Oui, les élections, l'Ebola ne va pas nous empêcher de faire les élections. L'idéal pour nous, c'est de vaincre l'Ebola avant les élections. Et c'est mon grand espoir. Mais nous allons donner tous les moyens à la CENI pour que fasse les élections à la date indiquée.
Bien, si vous le voulez bien, nous allons faire une pause, le temps de suivre l'actualité avec ce flash sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. Et on vous retrouve, Monsieur le Président de la République de Guinée, Conakry. Michel Facondo, on vous retrouve dans 2 minutes exactement. A tout de suite.
Merci d'écouter RFI. 12h28 à Paris, les 11h28 en temps universel.
Caroline Paré.
Pour un point de l'actualité, les Tunisiens votent jusqu'à 17h, temps universel, pour élire leur président. Second tour avec face à face le sortant Moncef Marzouki et Bedji Caïd Essebsi, dont le parti laïque était arrivé premier lors des législatives d'octobre. Vote sous haute surveillance avec hier l'attaque d'une école qui sert de bureau de vote. Ça s'est passé dans la région de Kairouan. Attaque lors de laquelle un homme a été tué et 3 autres arrêtés. Les forces kurdes poursuivent leur offensive contre le groupe État islamique dans la région du mont Sinjar, près de la frontière syrienne. Des Peshmerga soutenus par les raids de la coalition pour briser le siège et atteindre les populations yazidis bloquées depuis des mois dans cette même zone. Cet attentat fatal à 7 civils en Afghanistan, une bombe en bord de route a détruit une camionnette qui circulait dans le sud. Ça s'est passé près de la province de Kunar, à côté du Pakistan. Nouvelle vague d'arrestations en Israël dans les milieux anti-arabes. 8 membres de l'organisation raciste Leava ont été interpellés dans le sillage de l'assignation à résidence de son chef. C'était il y a 5 jours. Ce groupe avait été mis en cause dans l'incendie à la fin du mois de novembre de l'école bilingue arabe-hébreu de Jérusalem. Les suites de l'affaire de la cyberattaque visant Sony Pictures, Washington a rejeté la proposition nord-coréenne pour lancer une enquête conjointe sur ce piratage assorti de menaces contre le film L'Interview qui tue. Les États-Unis se tournent tourne maintenant vers Pékin pour coopérer et échanger des informations sur cette attaque via Internet.
Moi, je m'occupe de combattre l'Ebola,
certes,
et d'organiser les élections. On verra.
Bon. Il y a beaucoup de critiques du côté de l'opposition sur la composition de la commission électorale, par exemple. Est-ce que vous pensez renouer le dialogue avec les différents partis de l'opposition qui estiment que cette commission, finalement, n'est plus tout à fait indépendante, qu'elle a évolué dans un sens qui vous est favorable?
D'abord, je vous fais remarquer que l'opposition dont vous parlez a gouverné pendant plus de 20 ans. Et tout le monde sait dans quelle situation j'ai pris la Guinée. Vous êtes venu ici avant, vous avez vu. Donc,
et comment vous avez de la prison, vous avez été condamné à mort.
Voilà. J'ai dit que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Deuxièmement, c'est l'opposition qui a proposé la composition de la CENI. Moi, j'étais contre une CENI politique. On a envoyé des gens. Une fois que vous avez prêté serment, maintenant, vous ne rêvez plus d'un parti politique. Et je ne vois pas pourquoi on va mettre en cause la composition de la CENI alors que c'est eux qui ont proposé ça et une loi a été votée. On ne va pas dire que la CENI me favorise ou pas. Ils ont envoyé des gens à la CENI. Nous, on a envoyé des gens aux élections présidentielles. Moi, j'étais largement ministre de la CENI. Je n'ai pas mis la CENI en cause. Donc, c'était un faux débat de dire qu'on va recomposer la CENI alors que c'est eux qui ont proposé et la loi a été votée.
Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que la nature politique, la couleur politique des gens qui ont été mis dans la CENI a changé.
Vous savez, beaucoup de gens peuvent changer. Ce n'est pas seulement les membres de la CENI. Beaucoup de gens peuvent changer. Mais je ne vois pas.
Vous n'avez pas intérêt, Monsieur le Président, à ce que acceptation.
S'il vous plaît, c'est très simple. Vous proposez quelque chose, quand ça vous arrange, quand je ne pense pas, vous changez. On va faire des changements éternels. Non, il faut être conséquent. C'est eux qui ont proposé cette composition de la CENI. Ils ont envoyé des gens, ils sont responsables. Moi, ma responsabilité, c'est de respecter l'indépendance de la CENI et de ne pas mêler. C'est la CENI qui organise les élections. Je ne vois pas pourquoi, à chaque fois que quelque chose ne vous plaît pas, il faut changer. À ce moment-là, il n'y aura jamais de stabilité dans le pays. Donc, je ne rentre pas dans ce débat.
Et le pays est en difficulté du fait d'Ebola, mais pas seulement économiquement, le pays est tout de même en difficulté. Est-ce que vous pensez avoir ce qu'il faut pour financer ce processus électoral sans faire appel à l'aide extérieure?
Non, ce que nous disons, nous devons prendre l'habitude de budgétiser nos élections. Et il faut convaincre les populations, et tous les pays africains demandent cela. Les Nations Unies nous demandent de prendre la charte. Ce ne veut pas dire que nous rejetons toute aide. Ce que nous voulons maintenant, que l'aide extérieure soit liée à ce que nous demandons. C'est-à-dire, j'ai reçu aujourd'hui des ambassadeurs de l'Union européenne, je reçois l'ambassadeur des États-Unis et des Nations Unies pour dire clairement, nous ne sommes pas contre une aide extérieure, mais nous voulons que l'aide extérieure se fasse à notre demande, c'est-à-dire en fonction des besoins de la CENI, de notre besoin. Voilà, mais que nous nous habituions progressivement à ce que les élections soient organisées par notre propre budget. C'est-à-dire, si on veut la démocratie, il faut se donner les moyens. Peut-être on ne le réussira pas d'un coup, mais il faut qu'on évolue vers ça.
Et il y aura des exigences, des garanties de transparence, notamment, s'il y a une aide extérieure.
Je vous fais remarquer, madame, que je me suis battu pendant 50 ans. J'ai été condamné à mort, j'ai fait la prison. Ceux qui demandent la transparence, ceux qui organisent les élections non transparentes. Donc je pense que quand on parle, on oublie toujours le passé de la Guinée. Il faut un peu, vous êtes venu ici en 2003, vous savez comment les élections se passaient. Et c'est ceux qui sont dans l'opposition qui faisaient ces élections. Et moi, j'ai gagné les élections en 93. J'ai dit qu'on ne gouverne pas les cimetières. J'ai toujours refusé la violence dans ce pays. Vous ne verrez pas un seul moment où mon parti a troublé quoi que ce soit. On n'a jamais cassé un véhicule, jamais cassé une maison. Et pourtant, on a fait la loi anti-casseur contre nous, mais on n'a jamais utilisé la violence. On peut manifester, c'est le droit, mais le droit... Et votre droit ne vous amène pas à violer le droit de l'autre. Moi, je suis là pour protéger à la fois la démocratie, mais aussi les biens des citoyens. Vous pouvez manifester, mais ça ne vous donne pas le droit de casser les véhicules de quelqu'un ou de casser sa maison. Je pense qu'il faut aussi relativer des choses. Il faut voir comment la Guinée a évolué, comment en 4 ans nous avons évolué. On ne peut pas dire que parce que ceux qui ont gouverné, qui n'ont pas assez que le pays avance, ils ne veulent pas que le pays avance, qu'on va se soumettre à tous leurs dictats. Donc je pense que le problème, c'est que la CENI a été mise en place il y a moins de 2 ans, votée par la loi. Je ne vois pas pourquoi. S'ils veulent changer la CENI, ils sont tous au Parlement. Le Parlement n'a qu'à voter une loi. Aujourd'hui, on a un Parlement. Je fais remarquer qu'il y a 15 partis au Parlement. Il y a combien de pays africains où vous avez 15 partis représentés? Il y a un Parlement. Toutes les lois peuvent être modifiées. La CENI, c'est une loi. s'il veut changer, donc à faire les promotions de loi, tout se doit désormais, à partir du moment où on a une assemblée, tout doit se passer à l'assemblée, non pas dans la rue. Chacun est libre de faire des propositions à l'assemblée.
Monsieur le Président, pendant qu'on évoque, on va parler de l'Afrique, du terrorisme, etc., pendant qu'on évoque des sujets qui fâchent, votre pays classé 102e sur 180 en matière de liberté de la presse. C'est également un héritage ou c'est une situation endémique d'une jeune démocratie en devenir?
Il y a plus de 40 radios libres, je ne sais pas combien de journaux. Et aucun journaliste n'a été arrêté depuis que je suis président. Aucun journal n'a été interdit. Pourtant, quand vous écoutez les radios, dans beaucoup de pays dits démocratiques en Afrique, des journalistes sont arrêtés, des journaux interdits, etc. Vous savez, j'ai eu ce débat avec l'ambassadeur d'Allemagne. J'ai dit qu'on oublie le passé de la Guinée, on oublie les progrès que nous avons faits. Nous avons dans la même situation. Quand on parle trop, les Turcs ou les gens nous disent « oui, ils voulaient les nazis ». Bon. Et quand on parle, vous savez, ceux qui font ce critère-là, à partir de quoi ils font ce critère? Aucun journaliste n'a été arrêté en Guinée. Aucun journal n'a été interdit.
Monsieur
Alors, sur quelle base?
Monsieur le Président, il y a tout de même un certain climat. On est à un an des élections, donc un certain climat peut-être de tension qui émerge. Et des journalistes qui sont empêchés de travailler, notamment, par exemple, Mokhtar Ba, correspondant de Radio France Internationale. Et est-ce que vous pouvez...
Nous n'empêchons personne de travailler. RFI a fait accréditer un journaliste, déjà. On a donné l'accréditation à un journaliste. RFI est comme BBC et Africa numéro 1. Et on donne une accréditation, là c'est le Conseil national qui donne, vous avez déjà un agrément, vous ne pouvez pas nous dire, nous on est RFI, on veut dire. Je vous ferai remarquer que vos collègues sont arrivés ici il y a 2 ans, et à l'époque ils avaient promis qu'au bout de 3 mois, ils enverraient un correspondant qui n'est pas guinéen, demandez-leur, il y a 2 ans. Donc vous ne pouvez pas, on a déjà donné un agrément à un journaliste de RFI, vous n'avez pas à nous dire non, on a déjà donné. On donne à 1, on ne donne pas à 10. Alors, on n'empêche personne de travailler. Vous avez un journaliste qui est accrédité, c'est vous qui avez demandé son accréditation.
C'est un journaliste qui a travaillé en Guinée depuis très longtemps,
non,
qui a
connu des... Non, pas là. Vous savez cela, mais vous avez présenté un autre journaliste qu'on a accrédité. Pourquoi voulez-vous qu'on donne 10 accréditations à RFI?
Parce que dans tous les pays, RFI a plusieurs correspondants, il n'y a qu'en Guinée, finalement, il y a une restriction.
Enfin, ce n'est pas la RFI qui fait les lois en Guinée, c'est nous. Il n'y a pas de raison que BBC soit traité différemment que RFI et plus BBC et qu'on vous.
Donc, il y a tout de même cette restriction.
Ce n'est pas de restriction, on vous a déjà donné un agrément. Pourquoi BBC ne demande pas cette restriction? Vous êtes venu ici il y a 2 ans, vous avez pris des engagements que vous avez respectés.
Bien, écoutez, c'est une lecture par rapport à une polémique effectivement entre RFI et la cité.
Non, quand RFI prend des engagements, il faut qu'elle les respecte. Je pense que vous avez pris des engagements il y a 2 ans.
Je n'étais pas personnellement informé de cet engagement. Effectivement, nos collègues
enfin,
de RFI
peut demander à Jean-Karim Fall.
Bien, nos collègues répondront. Si l'on essaie plus largement de revenir sur la situation dans ce pays, à vos portes, au Mali, il y a un risque terroriste. On dit même que certaines cellules, peut-être, seraient déjà dans ce pays. Comment, lorsqu'on doit gérer Ebola, peut-on se prémunir de cette autre menace qui est en train de déstabiliser certains pays, certains États, aujourd'hui en Afrique, comme le terrorisme? C'est un risque réel pour vous?
C'est un risque réel, mais vous savez, le terrorisme fleurit sur la base de la pauvreté. C'est pourquoi il est très important pour nous que la lutte contre la pauvreté soit la priorité. Moins il y a de pauvreté, moins il y aura de terrorisme. Ce que nous disons à nos pays occidentaux, il est plus important de nous aider à faire la bonne gouvernance, à gérer le pays pour le bien du plus grand nombre, diminuer la pauvreté, parce que le terrorisme ne prospère que parce que... Voilà, parce que c'est la pauvreté qui permet de fleurir. Donc, plus on lutte contre la pauvreté, moins on aura du terrorisme, moins on aura d'islamisme, moins on aura d'ethnocentrisme. Le véritable problème de l'Afrique, c'est la lutte contre la pauvreté et surtout l'emploi jeune, où les jeunes connaissent aujourd'hui plus de 70% de la population et l'autonomisation des femmes. Donc il faut lutter pour la bonne gouvernance et la meilleure utilisation de nos ressources. Ça veut dire qu'il faut qu'on nous paye à juste titre nos matières premières. Moi, quand je suis venu, la première réforme que j'ai faite, c'est la réforme du code minier. Parce que le code minier, comment voulez-vous expliquer que la Guinée, qui a le minerai de fer le plus riche du monde, qu'on peut exploiter pendant 100 ans, depuis 50 ans, on n'a pas sorti une tonne de minerai de fer. On a la moitié des réserves mondiales de bauxite, on a une petite usine d'alumine, etc. Donc c'est incompréhensible.
L'Occident ne paie pas son juste prix, vos ressources, c'est ce que vous dites, c'est cet argument qu'on entend du pillage des ressources en Afrique?
Voilà, il faut que nos richesses, il faut qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant, que les entreprises minières ou pétrolières gagnent parce qu'ils investissent, mais que ça rapporte aussi au pays. Si vous voyez la Guinée, vous demanderez, si vous lisez le programme de Roland Play dans les années 49-50, la Guinée était promis un grand avenir. Nous sommes quand même un pays où tous les fleuves prennent leur source en Guinée. Nous sommes le château de l'Afrique. nous avons 6 millions d'hectares de terres fertiles, nous pouvons cultiver deux fois par an, nous avons des minéraux, des richesses, on dit que c'est un scandale géologique, nous sommes en même temps un scandale agricole. Ouais. Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? Il faut se poser la question.
À quel terme, Monsieur le Président, vous pensez que les choses vont pouvoir porter leurs fruits? Parce que vous avez revu quelques 800 concessions qui ont été accordées par le passé. Donc c'est tout un mouvement de révision des concessions. À quel terme tout cela, est-ce que ça pourrait porter des fruits?
Nous avions... L'Ebola est venu au moins un très mauvais moment. Au moment où nous avons signé et ratifié 4 contrats importants. Le contrat avec Rio Tinto pour la Simandou qui faisait 15 milliards d'investissements, ça c'est le minerai de fer. Le contrat avec Mubadala pour la bauxite sans crédit qui faisait 5 milliards d'investissements. Le contrat avec CPI à Bofa pour la bauxite qui faisait 5 milliards d'investissements. Mmh. Donc ça faisait 25 milliards d'investissements. Le MEDEF est venu, ils sont repartis enthousiastes. Et nous arrivions à la fin de notre programme avec le Fonds monétaire en février 2015. Donc au moment où réellement nous avons stabilisé la situation macroéconomique, les Français sont passés de 23% à un chiffre, la monnaie est stabilisée, etc. On a une gestion macroéconomique saine. Au moment donc où on allait tirer les avantages de ces bénéfices, nous avons récupéré 800 permis. Parce que vous avez des gens qui prennent des permis, 10 ans après, ça même pas se trouve la mine. Donc il fallait redresser. Et la Guinée est le seul pays au monde à avoir publié tous les contrats miniers. Parce que nous sommes totalement dans la transparence. Nous espérons qu'après l'Ebola, la Guinée va reprendre sa marche en avant qui a été un peu stoppée.
Mais vous sentez un peu la désertion des investisseurs en ce moment? Ou est-ce qu'ils viennent quand même? Ils sont
venus s'inquiéter? Bon, il y en a qui viennent, il y a d'autres qui n'y viennent pas parce qu'ils ont peur. Le fait de vous voir ici, de vous voir dehors, à l'air, etc., je pense que ça va. Le fait que le président Hollande soit venu, le fait que le président de la Banque mondiale soit venu, que Mme Girardin soit venue.
Finalement, il y a beaucoup de monde en Guinée.
Donc ça va progressivement faire comprendre aux investisseurs qu'on peut venir en Guinée, qu'on peut investir. Malheureusement, que Dieu son âme, le président de Total disait aux investisseurs, il ne faut pas avoir peur d'aller en Guinée, il faut aller en Guinée. C'était le Marjorie, c'est dommage qu'il soit décédé. Je pense que la presse a joué un grand rôle dans la stigmatisation de l'Ebola, dans créer une panique internationale. Il faut que la presse joue le rôle contraire, c'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'on n'attrape pas l'Ebola en venant comme ça. Donc la presse jouera un très grand rôle pour casser la peur, panique. Vous êtes là aujourd'hui.
C'est ce que nous avons
avant
fait
de venir, vos parents vous ont dit, vous allez en Guinée, n'allez pas en Guinée, etc., etc. Mais vous allez retourner, vous verrez qu'il n'y a rien.
Alors on parlait il y a un instant de la situation globale en Afrique. Il y a une question qui se pose régulièrement dans tel ou tel pays. Ça ne c'est pas le cas pour vous puisque vous êtes président depuis à peine 5 ans. C'est la question du troisième mandat. On a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Votre homologue Blaise Compaoré est parti en quelques jours. Il a dû prendre la fuite. Est-ce que vous donneriez un conseil à d'autres homologues, d'autres chefs d'État? On peut penser à Denis Sassou Nguesso, au président Kabila, de dire attention, il ne faut pas rester trop longtemps. Il y a une jurisprudence maintenant. Il faut faire attention. Pas assez trop longtemps?
Moi, je ne me sens aucun droit de donner des conseils aux autres. Je pense que chaque chef d'État a sa ligne politique et responsable.
Mais est-ce qu'on peut être trop longtemps chef d'État?
Vous-même qui avez subi des régimes qui se sont éternisés.
Vous savez, moi, ma préoccupation, c'est comment sortir la Guinée, oui, de la situation et l'amener à...
Mais on vous pose des questions quand même sur ça. Est-ce
je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je pense que chaque chef d'État est responsable de sa façon de gérer. Ne veux pas rentrer dans ce débat, sincèrement.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est dit au moment du sommet de Dakar, du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, puisque François Hollande a parlé justement de ce problème des changements de constitution et des...
Subreptice, comme il a dit, oui.
Mais je pense c'est tout à fait le droit de la France de donner son point de vue en tant que grande puissance qui a joué un grand rôle en Afrique et qui veut tourner la page de la France-Afrique. Donc c'est tout à fait le droit de la France. Mais moi, je ne suis pas français, je suis guinéen. Donc je ne me sens pas, pour le moment venu peut-être, mais pour le moment, ma préoccupation, c'est vraiment de lutter contre l'Ebola et de renforcer la démocratie en Guinée. Maintenant, nous verrons ce problème après, mais pour le moment, vraiment, je pense que chacun doit réfléchir. La seule chose que je peux dire, nous devons gouverner au profit de la grande majorité de la population. C'est-à-dire, personne ne doit se sentir exclu, particulièrement la jeunesse et les femmes. Parce que si les gens pensent que la richesse est confisquée par une minorité, la majorité restée de côté, je pense que ça peut poser des problèmes.
Pardon, Monsieur le Président, nous parlions de François Hollande. Vous êtes tous deux membres de l'Internationale socialiste. Quand il est arrivé au pouvoir, vous le disiez, un homme sans réseau. Est-ce que, selon vous, François Hollande a changé avec toutes ses interventions en Afrique?
Non. Il n'est pas intervenu en Afrique, on ne sait pas la France-Afrique. Si le président Hollande n'était pas intervenu au Mali, on en serait aujourd'hui. C'est évident que l'intervention française a sauvé le Mali. Ça, c'est une évidence. Nous avons été carents, nous les Africains. 50 ans après les indépendances, on a été incapables de résoudre ce problème. Heureusement que la France est intervenue. Cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. J'ai dit qu'effectivement, Hollande n'a pas un passé, il n'a pas de réseau, il n'est pas lié, donc il n'a pas...
Mais c'est plutôt bien ou c'est un reproche ?
Mais c'est un... Non, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, il peut travailler avec les pays, non pas être prisonnier de ses relations avec tel ou tel chef d'État. Au contraire, c'est dit que lui... Il peut mener une politique démocratique, donner une meilleure image de la France parce qu'il n'a pas de réseau justement.
Vous dites c'était bien que la France intervienne au Mali parce que ce pays était en danger d'implosion, il y avait le terrorisme. Est-ce que vous porteriez le même jugement sur ce qui s'est passé en Libye par exemple, puisque certains aujourd'hui avec le recul, certains sont critiques sur l'intervention militaire qui aurait déstabilisé ensuite le Mali et une partie de l'Afrique. C'était bien d'y aller ou fallait pas y aller ?
Au sommet du G8 de Deauville, mon collègue Issoufou, le président du Niger et moi, nous avons prévenu le G8. Nous avons dit que votre intervention en Libye va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la prolifération des armes dans nos régions.
Ça, nous étions compte,
compte de la façon de la en Libye. Aujourd'hui, ce que nous avons prévu, c'est-à-dire la somalisation de la Libye, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le gouvernement en Libye était fictif. Le président, le guide, comme il s'appelle, gouvernait avec les chefs de tribus. S'il n'y a plus ce pouvoir, chaque tribu va vouloir prendre son indépendance. Et deuxièmement, nous savions que la Libye, il y avait énormément d'armes en Libye. Et s'il n'y a pas un contrôle...
Et elles sont au Mali aujourd'hui, peut-être sur le point de venir jusqu'au
Niger. Donc ce n'est pas la même chose. Nous avons prévenu, attention, si vous intervenez au Libye, voilà ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Donc Hollande ne fait que payer les conséquences du fait que vous n'avez pas fait de service après-vente.
Mais maintenant, Monsieur le Président, les pays du Sahel se réunissent et demandent aux Nations Unies une nouvelle intervention, de mettre fin aux agissements des groupes djihadistes en Libye. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ?
C'est eux qui ont causé la création du sud de Libye. Si aujourd'hui le sud de la Libye est devenu un sanctuaire de terroristes, c'est bien parce qu'ils sont intervenus. Donc s'ils sont intervenus, ils ont créé cette situation, il faut bien qu'ils nous aident à la résoudre.
Donc
ils ont tout à fait raison, ils ont tout à fait raison de demander cela. Oui.
Il y a un drame qui se joue actuellement, que l'opinion publique a suivi, et dont on a le sentiment qu'elle l'oublie un peu également. Ce sont les enlèvements massifs qui se produisent encore, que ce soit au Nigeria, dans le nord du Cameroun, avec la secte Boko Haram qui enlève des centaines de jeunes filles, qui les vend. Comment est-ce que vous, chef d'État, vous réagissez ? Est-ce qu'il y a une impuissance face à cette menace ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce que vous, vous êtes acteur de cette mobilisation ?
Je pense que nous n'avons pas été assez responsables au niveau des Africains. Nous n'avons pas suffisamment soutenu le Nigeria. Et ce que la France et les États-Unis ont décidé de faire pour le Nigeria, c'est le pays de la CEDEAO qui a dû faire cela. Je pense que le Nigeria n'a pas bénéficié de notre soutien total. C'est-à-dire, il faut que nous devenions plus responsables, que nous sachions que s'il y a un problème dans un pays, si nous n'éteignons pas le feu, ça va atteindre les autres pays. Mm-hmm. J'espère que nous allons prendre conscience et tout faire pour aider le Nigeria à mettre fin au danger de Boko Haram, parce que aujourd'hui, ça s'étend vers le Cameroun. Demain, ça sera le Niger, ou le Mali, la Guinée, etc. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de frontières communes qu'on n'est pas menacé. Donc, il faut que les Africains soient plus solidaires et qu'on soit plus unis. Et que lorsque un pays a un problème, qu'on se sente tous concernés. C'est la solidarité, ce manque de cette solidarité africaine qui est aujourd'hui notre grande faiblesse, qui fait que nous n'arrivons pas à faire face aux crises.
Vous vous sentez concerné peut-être par les problèmes de financement du terrorisme aussi, des problèmes du narcotrafic qui alimente ces réseaux djihadistes. Est-ce que vous avez à lutter contre ça dans votre propre pays ?
Bien sûr, il est extrêmement important que nous luttions contre le narcotrafic, contre le trafic d'armes. Vous savez, à cause des guerres civiles qu'il y a eu en Afrique, il y a énormément d'armes qui circulent. Et aussi, tout cela est lié à la misère des populations. C'est-à-dire, il faut que nous prenions conscience que notre premier rôle, c'est de lutter contre la pauvreté. Quelle grande puissance aussi prenne conscience. Quand on fait 2015, etc., mais qu'on ne voit rien. Quand on promet, on va faire ça en 2015, etc., et que finalement, ça ne suit pas, ça veut dire que chacun doit prendre conscience.
Vous voulez parler des objectifs du développement censé réduire la pauvreté.
Et qu'au moment où on arrive, on voit que même le dixième est un effet. Donc, il faut que chacun prenne conscience que nous avons intérêt aujourd'hui à nous donner la main pour lutter contre la pauvreté et que nous donnons l'espoir aux populations. Si les populations, on donne l'espoir, mais aussi qu'on montre qu'on s'occupe réellement de leurs conditions de vie et de changer, Je pense que c'est la seule façon que nous avons de lutter contre le terrorisme, contre le narcotrafic. Parce que tant que nous ne commencerons pas à changer les conditions de vie des gens, tant que les gens penseront qu'il y a deux par deux mesures, une minorité qui profite et une majorité qui est exclue, nous aurons toujours des problèmes.
Et ça passe par l'état de droit, le développement de l'état de droit aussi, en Guinée.
Le développement de l'état de droit, la juste répartition. D'abord, qu'on nous paye nos matières premières à juste prix, et ensuite que nous utilisons les ressources de ces matières premières pour faire des infrastructures, des écoles, de l'énergie et améliorer les conditions de vie des populations, et j'y ai encore particulièrement des jeunes et des femmes.
Alors, Monsieur le Président de la République de Guinée-Conakry, Alpha Condé, nous sommes ici à l'extérieur, dans cette ville, nous sommes venus puisque votre pays lutte contre Ebola. Est-ce que vous pensiez, lorsque vous étiez dans l'opposition ou universitaire reconnu en France, que ce serait aussi dur de gérer autant de choses, d'être chef d'État dans ces conditions?
La Guinée est un pays particulièrement difficile à gérer parce que nous avons un lourd héritage. Si je prends, par exemple, il y a eu beaucoup de morts en Guinée. Il y a eu le camp Boiro, il y a eu 85, il y a eu 2006, 2007, 28 septembre.
Les crises qui sont
Donc,
dépliées,
ouais. Nous avons un lourd passé. Il faut que les Guinéens acceptent ce que j'ai dit. Moi, j'assume tout le passé de la Guinée, dans ses aspects positifs comme dans ses négatifs. Il faut qu'on accepte de reconnaître nos crimes et pour que les victimes puissent pardonner. Donc, nous avons
2009,
un lourd passé.
2009, la répression au stade de Conakry, il y aura des poursuites judiciaires plus...
Bien sûr, il y a un pool de juges qui est en train de travailler. Le ministre a invité la procureure, Mme Bensouda. Mais avant qu'il y ait eu 28 septembre, il y a eu le camp Boiro, il y a eu 85, il y a eu 2006, il y a eu 2007. La Guinée doit faire face à son passé.
C'est-à-dire réconciliation et amnistie.
Voilà. Non, d'abord, il faut reconnaître nos crimes. Si on reconnaît nos crimes, ceux qui sont victimes peuvent pardonner. Mais il faut commencer d'abord par reconnaître nos crimes et rétablir la vérité. Yeah. Et pour que les gens se pardonnent. Mais c'est tous les crimes. C'est le camp Boiro, c'est 85, c'est 2006, 2007, 28 septembre. Tout ça, c'est des Guinéens qui ont fait, ce n'est pas des étrangers. Donc nous devons l'assumer et essayer de voir comment nous allons sortir de cette problème de conciliation.
Monsieur le Président de la République, Alpha Condé, merci de nous avoir accueillis ici, en extérieur, au cœur de cette ville de Conakry, dans un pays qui, au niveau international, fait peur encore aujourd'hui. Mais nous reviendrons lorsque cette épidémie aura été éradiquée. Merci de nous avoir reçus avec RFI et donc TV5 Monde. Merci à vous pour votre fidélité pour cette dernière édition d'année. Nous nous retrouverons début 2015 pour d'autres éditions d'international. Merci à vous.
RFI, la radio du monde.
يا محلاها.